Où sont passées nos années 70 et comptez pas sur moi pour faire dans le C'était mieux avant parce que j'avais moins d'un an, moi. Non, justement, ce qui m'épate, c'est plutôt cette nostalgie généralisée qui atteint même celles et ceux qui n'ont pas vécu ces années et qui la font revivre, cette décennie enchantée, à travers des sons, des échappées de papier dans le passé, une certaine idée contestable d'ailleurs de la liberté. Ce qui me frappe dans ce tropisme 70s, c'est qu'on en vient à oublier ces guerres, ces répressions, ces crises économiques, on passe sur ces scandales pour ne retenir que le simple fait qu'on les ait contestés. Des années 70, en fait, on retient l'euphorie, la fièvre, et pas seulement du samedi soir, l'effervescence d'un monde où tout était possible. On retient la jeunesse, même s'il y avait des vieux, hein. Mais on préfère toujours Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, qui sont morts quand ces années ont commencé, mais qui les ont étrangement marqués du sceau de leur jeunesse éternelle. Des années 70, on retient le culte, la créativité, la contre-culture, comme on l'appelait volontiers, même si à force de la revendiquer, on a fini par la voir un peu partout, hein, même dans les musées où sont passés nos années 70, celles qu'on évoque avec regret, même quand on les a pas vécues. Moi, j'ai ma petite idée. DTC.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a commencé sa carrière au milieu des années 70. Il est l'un des grands noms de ce qu'on appelle, peut-être le terme est-il un peu galvaudé, hein, la contre-culture en France, graphiste, peintre, vidéaste. C'est à la fin des années 70, avec son collectif Bazooka, qu'il a commencé vraiment à marquer le monde de l'art, de son empreinte, toujours à la limite, hein, de la provocation. C'est un habitué de l'atteinte aux bonnes mœurs. Une grande exposition lui était consacrée dernièrement à Paris, lui dont les œuvres sont très rarement montrées. Bonjour, Kiki Picasso.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. De quelle liberté est-ce que vous jouissiez, vous, à la fin des années 70 ou même au milieu, quand vous étiez encore étudiant aux Beaux-Arts? Il se passait vraiment quelque chose?
Je jouissais du fait d'arriver avec un vierge sur le terrain sans savoir que par moments, on pouvait manquer de liberté. Donc la liberté, on la prenait sans se douter que des fois elle est... arrêter.
Mais cette effervescence, vous l'avez vécue? Vous la ressentez encore aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. Ben là, comme lycéen, j'écoute en effet Janis Joplin, les Pink Floyd, Frank Zappa. C'est étonnant d'ailleurs, les lycéens écoutent une musique vraiment très moderne sur l'instant, comme ça. Après, les punks arrivent, du jour au lendemain, on se coupe les cheveux, on commence à fumer du cannabis, on découvre l'underground américain, Crumb, Moscoso, Griffith, Corben, enfin, plein d'auteurs géniaux, la littérature aussi de science-fiction. Et en effet, on arrive après cette espèce de vague de la vague hippie, tout simplement, voilà, qui a été vraiment un moment de libération. Et comme on arrive avant, on n'a pas connu, presque c'était très violent quelque part, et agréable.
Cette créativité, ce moment en fait de l'histoire culturelle et artistique, elle est passée où en réalité? Qu'est-ce qui fait la liberté de l'artiste aujourd'hui? Vous la trouvez encore?
Oui, moi je me sens totalement libre. Après, on est dans une société où, quoi qu'il arrive, selon les moments, il faut tenir compte de la sensibilité global de nos contemporains. Dans les années 70, finalement, on s'adressait quand même à un public réduit, à travers une presse vraiment marginale. Donc, c'est ça qui donnait la liberté. Plus l'audience est grande, et moins on a de liberté, finalement. Parce qu'en face de soi, on a beaucoup de gens qui pensent différemment.
Et on parle beaucoup de retour à l'ordre moral aujourd'hui, Kiki Picasso, y compris dans le monde de l'art. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez plusieurs fois, je le disais, fait l'objet de plaintes pour outrage aux bonnes mœurs, la morale?
Oui. Oh, ça fait partie de mes médailles. Je dois avoir quasiment 9 outrages aux bonnes mœurs, apologie du crime, de tout, du viol, de la drogue.
Ça veut dire que vous jouez avec le domaine de l'interdit toujours?
Dans le temps, c'était très amusant parce que quand on avait des outrages ou des attaques de ce type, c'était le procureur de l'État qui lançait l'action. Et dans la salle de tribunal, on se moquait les gens riaient dans la salle. Les avocats balançaient des vannes et le procureur de l'État se ridiculisait, mais vraiment, et le lendemain dans la presse, tout le monde riait de ce paradoxe de condamner des artistes pour des petits dessins. Maintenant, c'est les associations. Justement, le procureur de l'État, à un moment donné, à force de se ridiculiser, a dit, je ne me ridiculiserai plus, que ce soit vous qui vous ridiculisez, c'est-à-dire vous les citoyens. Et en effet, ces dernières années, de nombreux citoyens se sont ridiculisés en attaquant les artistes.
Parce que la morale n'a pas de place pour vous en art, Kiki Picasso?
C'est pas que la morale n'a pas de place, c'est que même c'est assez difficile. C'est plus simple aujourd'hui de savoir où est la limite, vu que le curseur réagit très vite. On est face à ce moment particulier où tout le monde a la parole. Voilà, c'est-à-dire finalement, moi je suis extrêmement content qu'aujourd'hui tout le monde ait la parole. Dans le temps, il y avait que les artistes, les journalistes, les écrivains qui pouvaient s'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer. Donc le fait d'être confronté à une société extrêmement sensible, je pense que d'une certaine façon, ça augmente notre sensibilité aussi à nous les artistes, et quoi qu'il arrive, on en tient compte. C'est-à-dire même que si cette parole est intolérante, agressive, c'est-à-dire menaçante.
Les dessins, par exemple, pour lesquels on vous a beaucoup jugé, notamment qui touchaient à la pédopornographie, qui ont fait couler beaucoup d'encre, cela vous les referiez plus?
Bien évidemment. Je suis à un moment donné où ce genre d'image, on peut l'acheter en sex shop. C'est-à-dire que moi, après, toutes les images m'intéressent. Il n'y a pas une seule image qui n'est pas redessinable ou réinterprétable ou aussi à mettre en exergue dans un moment de l'histoire. Donc ces images existaient, je les ai utilisées. Aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent d'utiliser ces images. Je ne les utilise plus. Voilà, mais je pense c'est pas un malheur qu'elles ne soient plus comment dire utilisables.
Quand je vous ai demandé,
c'est plutôt bien d'une certaine façon parce qu'elles étaient très très violentes celles-là. Mais il y a d'autres images extrêmement violentes. Les images de guerre sont d'une violence incroyable.
C'est vrai.
Et pourtant, on pourrait faire des. On pourrait les mettre partout, les afficher.
Mais quand je vous ai demandé de réfléchir à un sujet d'actualité pour ouvrir cette émission, vous aviez pensé à la dépénalisation des drogues.
Oui, bien sûr. Mais là, ça fait des années que je suis sur ce sujet-là. Déjà, je le suis en tant que fumeur qui, depuis des années, n'a pas envie. Enfin, je trouve ça un peu dur de devoir prendre des risques quand je vais m'acheter ma barrette au coin de la rue. Et encore plus dur de penser que je fais prendre des risques à des gamins de 14 ans qui sont en train de me le vendre.
Et donc, vous êtes hors la loi.
Et voilà, on est tous hors la loi. Tandis que, voilà, on fume un petit pétard le matin, le soir, de temps en temps, et ça suffit. Mais après, moi, je suis même d'ailleurs pour la dépénalisation de toutes les drogues, pas uniquement le cannabis.
Toutes les drogues.
Ah ben oui, bien évidemment. Je suis pour qu'une fois pour toutes, on pense que les citoyens sont adultes et sont capables de gérer leur vie, leur santé, leur désir, de toutes les manières. Je reste un combattant des droits individuels, vraiment de la liberté.
Alors évidemment, c'est un point de vue.
La liberté individuelle, voilà.
En tout cas, ce qui est
certain, les drogues en font partie.
C'est que la découverte de certaines drogues dans les années 70, puisqu'on en parlait, a influencé bon nombre d'artistes, et sans faire de prosélytisme, quel rôle ont-elles joué dans votre processus de création à vous, Kiki Picasso, dès la fin des années 70, les drogues?
Ben ça, c'est sûr que c'est l'arrivée du LSD. Quand je suis au Beaux-Arts, on prend du LSD. Mais on prend du LSD le matin et on va au zoo, et puis quand on rentre, on fait un travail, je me souviens d'un journal qui s'appelait L'Acide au zoo, on va dans les grands magasins, on découvre,
on a une vision
différente du monde, et cette vision, que ce soit moi ou mes camarades de Bazooka à l'époque, on essaye de la retranscrire, c'est-à-dire on essaye de faire comme des photographies mentales, des souvenirs, tout en ayant que ce soit impossible de retranscrire l'expérience hallucinogène, bien évidemment. Donc c'est un vœu pieux, une tentative.
À quoi ressemble un zoo sous LSD?
Un zoo sous LSD, c'est incroyable. J'ai le souvenir de voir les éléphants de mer, leur respiration, leur système musculaire, leurs palpitations, les lignes de vie qui sortent de leur respiration, les couleurs qui changent, les moirures dans l'eau, sur leur peau humide. C'était magnifique. Voilà. Et tout ça existe en vrai. Finalement, notre vision se banalise. Mais je dois dire que l'expérience hallucinogène que j'ai vécue à ce moment-là m'a permis de garder cette vision toute ma vie. Et d'ailleurs, dans le LSD, il y a beaucoup de drogues. Si on veut se remettre dans l'état où on était sous drogue, on ne peut que avoir recours à reprendre de la drogue. Tandis que le LSD, on garde dans l'esprit une vision particulière qu'on peut adapter même en étant totalement à blanc.
Comment est-ce que vous êtes arrivé aux Beaux-Arts, en fin de compte?
Je suis arrivé aux Beaux-Arts J'étais très très mauvais élève et chaque fois je raconte cette histoire un peu con, mais c'est vrai. Mes parents étaient désespérés, j'ai été viré de toutes les écoles et je fais l'orientation scolaire et c'est à l'orientation scolaire, ils disent votre fils, il est bon soit pour la menuiserie, soit pour le dessin. J'avais jamais dessiné de ma vie, je me souviens ils m'avaient demandé de dessiner un arbre.
Ouais. Et d'où la menuiserie.
D'où la menuiserie aussi, d'ailleurs c'est ça doit venir de là. Et naturellement, après, mes parents me disent « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Alors, la menuiserie, bien, et les bénisteries, tout ça, j'aime beaucoup. J'en fais un peu, même de temps en temps, pour le plaisir. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé dans une école de préparation aux écoles d'art, aux beaux-arts. Et par chance, j'ai été accepté. C'était une époque où il n'y avait pas besoin du bac pour entrer dans les écoles d'art. Aujourd'hui, pour entrer dans une école d'art, il faut être super bon en maths. Moi, si ça avait été le cas à l'époque, jamais... Je serais rentré dans ce monde.
Alors, on pourrait croire à m'entendre comme ça répéter Kiki Picasso à qui mieux que votre nom tout simplement vous prédestinait à une carrière d'artiste, au risque de décevoir certains auditeurs. Vous n'avez rien à voir avec le Picasso des Demoiselles d'Avignon, c'est un pseudo.
Mais il y a un autre Picasso au XXe siècle,
Loulou. Là,
j'en ai jamais entendu parler.
Je pensais que vous alliez citer Loulou, un autre Picasso.
Ah oui, non, mais bien sûr, il y en a un autre, oui, c'est vrai qu'il y a Loulou.
Mais comment il est né ce pseudonyme?
Je travaille à Libération et les journalistes de Libération, donc là on est en 77, ne comprennent vraiment pas ce qu'on est en train de faire. En plus, c'est le début du punk. À Libération, ils sont encore, ils ont les cheveux longs, des grandes barbes. Nous, on arrive avec vraiment la panoplie des punks de l'époque, les cheveux courts. Ils ont bien conscience qu'on fait quelque chose d'étrange. Mais en voyant notre travail, c'est eux qui disent, de toute façon, eux, ils font du Picasso, mais ils font du Picasso, ça veut dire qu'ils font n'importe quoi.
Ah d'accord.
Le fils de ma voisine de 4 ans fait autant, etc. Et du coup, ça nous amuse, moi, Loulou et Bernard Vidal, qui lui va signer Bernard Picasso. Donc on se met à trois à faire un numéro spécial Picasso. Quasiment 24 heures après, il y a un vrai Bernard Picasso qui appelle Bernard Vidal en disant « T'as pas intérêt à continuer, parce que je veux pas qu'on croie que je fais partie de votre bande, là. » Donc Nanar, le pauvre, il s'arrête tout de suite. Mais moi et Loulou, on continue pendant longtemps.
Celle qui est moins Picasso que Kiki, pour le coup, dans cette émission, c'est la culture. Et son actualité, cucu, la praline, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 9 mai?
C'était aussi un film sur les femmes et sur la féminité, donc la sensualité, donc l'érotisme, un érotisme de la nature, un érotisme des lumières, des parfums, des odeurs et de la vie quotidienne.
Deville, en la demeure, la Cinémathèque française propose dès aujourd'hui une grande rétrospective au réalisateur Michel Deville, contemporain de Godard, de Truffaut, en marge de la nouvelle vague. Le cinéaste propose depuis 1961 un cinéma libre, inventif, spontané, fantasque. Grand directeur d'acteurs, il a fait tourner les plus célèbres devant sa caméra, de Brigitte Bardot à Anémone, en passant par Michel Piccoli, Françoise Fabian. Pour l'occasion, on se replonge dans Dossier 51, La maladie de Saxe ou Péril en la demeure, qui lui valut en 1986 le César du meilleur réalisateur.
Bien dans le fait d'écrire aussi. Vous avez votre vie, qu'est-ce qu'elle est, mais vous avez une autre vie, avec vos petits personnages que vous faites vivre. Enfin, moi j'adore, quoi.
Un mich-mich peut en casser un autre. Michel Houellebecq a reçu le prix d'État autrichien de littérature européenne, a annoncé hier le ministère de la Culture à Vienne. Un prix qui vient récompenser son dernier livre, Sérotonine, et son art de provoquer le débat, je cite, autour de thèmes particulièrement contemporains comme le radicalisme politique, les biotechnologies ou le rêve d'immortalité. C'est encore une citation. Le dernier Français à avoir reçu ce prix, c'était Patrick Modiano, en 2012, 2 ans seulement avant de décrocher son Nobel. Allez là !
Só chorar não adianta. É necessário. Ajude ao Museu Nacional.
Le ministère de Rio ne répond plus 8 mois après l'incendie qui a ravagé le musée national de Rio de Janeiro au Brésil. Son directeur vient de lancer un cri d'alarme à destination du ministère de la Culture du pays. L'institution a besoin de 220 000 euros d'urgence pour respirer, déclare-t-il. Depuis l'élection du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, en octobre dernier, le musée n'a plus reçu d'aide financière issue de fonds publics, ni même de réponse aux demandes de prise de contact adressées au nouveau ministre de la Culture. C'est dur. La canicule et ça recule. Le CNC vient de révéler les chiffres de fréquentation des cinémas français en 2018. Résultat, 200,5 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles obscures, soit une baisse de plus de 4% par rapport à l'année précédente. Un recul qui s'explique par trois facteurs, nous dit le CNC. La canicule, la Coupe du Monde de foot et surtout le manque de grosses productions américaines très porteuses à l'affiche. Par ailleurs, l'étude rappelle que les trois plus gros cartons de l'année furent Les Indestructibles 2 de Brad Bird, Les Tuches 3 d'Olivier Barou et La Ch'tite Famille de Danny Boone. Et l'artiste Kiki Picasso, invité de Boomerang ce matin. Et votre travail, Kiki, on le disait, et on le comprend, il repose très souvent sur le détournement d'images, d'images préexistantes que vous utilisez, que vous combinez, que vous transformez dans vos œuvres. D'où est-ce qu'il est né cet intérêt pour les images? C'est venu petit à petit.
Mon papa était photographe de cinéma, donc déjà, et ma maman était mannequin quand j'étais jeune, donc j'ai toujours vécu dans le monde des images. J'ai toujours vécu avec une énorme bibliothèque devant moi. J'étais enfant unique, donc souvent, pendant un certain temps, donc souvent, j'allais me balader dans cette bibliothèque qui était géniale, surtout les étagères du haut, qui sont toujours les meilleures dans les bibliothèques.
Et quelles images vous attiraient, justement, lesquelles vous ont marqué durablement?
J'ai des images qui m'ont marqué, par exemple, une image où on a en Chine un prince chinois qui est condamné et qui est sur un poteau d'exécution, drogué sans doute à l'opium et qui est dépecé vivant. Voilà, qui est vraiment un standard dans certains livres.
Vous aviez quel âge quand vous avez vu cette image?
Ça, j'étais très très jeune.
C'est un problème, Kiki. C'est un problème, à mon avis, ça a déterminé pas mal de choses.
Voilà, mais après, j'aimais bien, par exemple, j'ai un grand souvenir des images érotiques liées à la mythologie de Picasso. Il y avait un livre super, assez réaliste d'ailleurs, sur la chose, enfin, toutes les images, après même les petites images qu'on collectionnait quand on était sage, oui. Voilà, où j'étais à l'école d'ailleurs, quand on était sage, on avait des images, mais
bien sûr.
J'étais jamais sage, donc j'en avais jamais des images, par chance.
Il y avait l'image et il y avait la grande image après, on pouvait avoir la grande image.
Voilà, oui, par chance, je réussissais toujours à trouver des images par mes propres moyens et j'ai continué toute ma vie à me faire plaisir avec des images.
Il vous a pas échappé que jamais nous n'avons autant été entourés d'images qui circulent en continu sur les réseaux sociaux mais aussi à la télévision. Quel serait pour vous l'impact de ce trop-plein d'images sur notre sensibilité?
Je pense, trop plein, je considère que c'est vraiment pas un trop plein. Moi, j'adore me retrouver submergé, noyé dans ce flux d'images. Et toute ma technique actuelle, c'est d'avoir mis en place des façons de modifier, de réinterpréter ces images de façon très très rapide. C'est dû au fait que pendant très longtemps, je travaillais dans des journaux où une image, elle doit être faite, pour ainsi dire, en 15 minutes, ou un générique de télévision, on a quasiment que la nuit pour le faire et devoir le rendre le lendemain matin. Donc, et encore même la peinture, je veux aller vite, ne serait-ce que pour faire la prochaine, et d'une certaine façon, je prends peut-être plus de plaisir à regarder les images qu'à les dessiner.
C'est un art de la manipulation de l'image, effectivement. Dans quelle mesure, à votre avis, pour autant, se laisse-t-on manipuler par les images, nous?
Là, après, bien évidemment que les images nous influencent, nous harcèlent. En même temps, les gens sont là, diabolisent les images. J'ai certaines de mes images qui sont diabolisées au point que ça m'attire des ennuis. Mais après, moi, j'ai toujours tendance à dire que cette dramatisation est exagérée. Et la meilleure preuve, c'est souvent on dit sage comme une image. Il n'y a pas plus sage qu'une image. Il n'y a rien de moins dangereux qu'une image. Encore faut-il savoir lire les images. Et je suis d'ailleurs le premier à être ravi qu'il y ait une surdramatisation de l'image, parce que finalement, oui, tout le monde se foutait des images, je me demande bien à quoi ça servirait mes petites images à moi.
Mais aussi, Kiki Picasso, parce que le traitement que vous faites subir aux images participe d'une logique de subversion, subversif. Ce sont des termes d'ailleurs qui reviennent souvent lorsqu'on parle de votre travail. Qu'est-ce qui est subversif chez vous, à votre avis?
Déjà, le fait de vouloir qu'il y ait un impact. C'est-à-dire, quand je fais une image, je veux qu'il y ait un impact. De là, l'utilisation par moment d'images transgressives, violentes, par facilité, en sachant que l'impact sur un joli paysage, l'impact peut être n'importe où. L'impact est dans la beauté. Même tout à coup, de fabriquer de la beauté ou de tenter de le faire, très souvent, chaque fois que je fais une image, c'est quand même dans une volonté d'embellissement. Et très souvent, les gens ont dit, j'étais en train de faire des choses horribles. Mais non, ça a toujours été dans un but d'amélioration et aussi dans un but de rendre plus lisible ou de permettre aux gens de penser autrement quand ils regardent une image. C'est-à-dire, mon rêve, ce serait de me retrouver aux 20h sur une grande chaîne et de réagir sur l'information et sur les images d'information, comme je le fais en peinture, mais animé. Et aujourd'hui, on a les logiciels, même ça fait, c'est pas aujourd'hui, ça fait des années qu'on pourrait faire ça. Et donc, de réagir émotionnellement d'une façon différente de la technique des journalistes avec leur distanciation qui est elle-même artificielle, parce que le travail du journaliste c'est aussi une création pas graphique mais littéraire qui voilà, ce qui est dommage c'est qu'on arrête les artistes, on les voit jamais, on donne jamais l'image aux artistes.
Passionnant.
Par rapport à l'information en temps réel, je veux dire, pas dans un hebdo, au quotidien.
Et vous disiez tout à l'heure, encore faut-il savoir lire les images Kiki Picasso. Pensez-vous qu'on les lise bien, aujourd'hui, mieux?
Je pense que plus on regarde d'images et plus on apprend à les lire. Donc comme aujourd'hui, tout le monde est confronté à des stocks d'images qui arrivent. Bon, bien sûr, peut-être à la fin, les gens ne les voient plus, mais maintenant, ils y sont habitués. Les grands-mères, dans le temps, ne voyaient pas les images quand elles passaient rapidement. Aujourd'hui, les gens sont habitués à quasiment comprendre et lire une image qui passe un quart de seconde. Il y a quelques années, il fallait qu'une image reste 3 secondes pour que les gens, leur cerveau, puissent intégrer cette image.
Intégrons images tous les deux ce matin. Bon, regarde, on va continuer à parler d'art, évidemment, ensemble, juste après Alain Bachung, dont vous avez réalisé le clip, L'arrivée du tour en 1986. Alors attention, parce que ça dépote, hein. C'était sur l'album Passé le Rio Grande, je crois. C'est un des Bachung que je préfère pour ma part. Vous êtes sur France Inter avec Kiki Picasso. Vous écoutez Boomerang. On est jeudi. Gloire aux images.
À genoux les majorettes, ces demoiselles au parloir, sonnez, résonnez, musette, à nous de la victoire. Loin les cul-jack, ça coule les rues, à la poursuite du monde sans but. Non, y'a pas le feu au QG, non, y'a pas le feu au QG, le feu au QG. Ce n'est qu'un arrosoir, un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mets du tapinambour? Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Pas de minuit, minuit. Rendez-vous les séchoirs. Astiquez, baïonnette. Vous qui passez sans m'avoir. Suis trop pompé pour le César. Smoking, fumé, va de non recevoir. Et tu me la gardes mobile. Et tu me la gardes mobile. La garde mobile. Sur la voie, qu'est-ce qu'il fait? Mets du tapis en
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre Kiki de Montparnasse, Kiki la petite sorcière, Kiki le petit ours qui suce son pouce, vous savez, et le moine bouddhiste, avec sa douceur perchée, son zen communicatif, son cheveu court et ascétique. Il a quelque chose du chaman charismatique qui, 2 mois par an, organiserait des retraites aux flambeaux, aux confins de l'Amazonie, de la Creuse ou de la Seine-Saint-Denis pour célébrer l'amour, l'herbe et les étoiles avec son t-shirt jaune et noir qu'il a eu, me dit-il, pour son anniversaire il y a quelques jours, l'artiste Kiki Picasso, invité de Boomerang ce matin. Et quand on pense à vous, Kiki, on peut pas s'en de penser à un univers où les couleurs très acidulées se juxtaposent, explosent en fait, pour ainsi dire. Quand est-ce que vous avez commencé à l'utiliser, la couleur ?
Quand on commence, on en manque de moyens, du coup on est en noir et blanc. Donc bon, j'aime beaucoup le noir et blanc, mais tout à coup, quand on a le droit de faire de la couleur, ben je vais m'en servir de la couleur. Voilà, c'est, et bien évidemment, on est toujours dans cette logique, faut que ça tape. Faut que ça cogne, faut sentir une réaction. Il faut pas avoir peur d'en faire trop. Donc mettre trop de couleurs, mettre trop d'images, mettre tout de trop. C'est voilà, c'est la base.
Vous voulez dire par là qu'il y a des couleurs parfois qui imposent l'œuvre. C'est-à-dire que c'est à partir des couleurs que vous allez mettre que l'œuvre prend sens.
Pas vraiment, parce que les couleurs, je sais vraiment rarement où je vais. Quand je commence à dessiner, j'ai mon sujet. Mon sujet, c'est donc souvent des photographies qui sont piquées aujourd'hui sur Internet, qui peuvent être manipulées, donc j'ai une sorte de collage. Et je projette sur une toile ou aussi sur une feuille de papier. Je travaille toujours sur des techniques dites de décalcage ou de projection à partir d'un document réel. Mais quand je commence les couleurs, la logique c'est quelle est la couleur presque. Ben aujourd'hui, maintenant, j'ai une gamme harmonieuse qui finit par une harmonie presque classique. À la fin, on finit par être un classique. Donc,
c'est un drame,
mais,
ça.
Mais au départ, c'est quelle est la couleur qu'il faudrait pas mettre à côté.
Ah.
Et finalement, on la met. Voilà. Et elle est bien évidemment, elle marche très bien. Après, je suis avec une logique qui est souvent, on est très sélectif sur la façon d'organiser les images, les mots. Moi, je pense que tout s'accroche avec tout. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs l'influence du LSD encore. C'est la perception que on fait partie du grand tout, et dans le grand tout, tout s'accroche avec tout. C'est, il y a pas de problème. C'est la base.
Tout à l'heure, vous avez parlé de beauté, Kiki Picasso. Vous en faites quoi, vous, dans votre travail? Dans quelle mesure est-ce que c'est un enjeu pour vous, la beauté?
Ben, c'est comme, il faut que ça tape, mais il faut que ce soit beau. Pour avoir une réaction, il faut que ce soit beau. On est presque. Mais la beauté, c'est là où on pourrait dire que la laideur est bien évidemment une forme de beauté, quoi qu'il arrive. Donc,
c'est-à-dire que dans votre exposition, on trouve à la fois un portrait de votre fille et une attaque en règle de Nicolas Sarkozy. Donc la question se pose, ce que vous trouvez beau, Kiki Picasso?
Bah, par exemple, quand je dessine ma fille, je la fais la plus belle possible. Et de toute façon, c'est pas très difficile parce qu'elle est très très belle, ma fille Maïlan. Mais quand je dessine Sarkozy, mon but, c'est de le faire lui aussi très très beau. Pour moi, bien évidemment, Sarkozy, c'est un personnage négatif. Je suis pas de gauche, moi. Je suis d'ultra-gauche. Radical, radicalisé, prêt à la lutte armée, même, quasiment.
On se calme. On a déjà eu le LSD en début d'émission.
mais Sarkozy, même si je pense qu'il fait partie des forces du mal, quand je le dessine le plus beau possible, comme des personnages comme Marine Le Pen. Et je pense que dans la beauté, il y a aussi cette charge d'ambiguïté. La beauté est-elle tellement belle? La laideur est-elle tellement laide? Donc, dans les deux tableaux, et on parle vraiment là de tableaux, on surfe sur cette ligne qui est la ligne qu'on pourrait définir comme la ligne définissant l'équilibre optimum de l'art.
En vous entendant et en vous regardant sourire, Kiki Picasso, je me dis que la beauté, c'est aussi ce qui éveille chez vous une sensation de plaisir. Chez vous, le plaisir, c'est un catalyseur de création.
Bien sûr, la prise de plaisir, l'illumination provoquée par le plaisir et aussi l'illumination provoquée par la conscience des autres. Moi, déjà, de base, je suis un artiste, mais je n'ai jamais travaillé tout seul, et j'adore travailler avec des gens, et j'adore être porté par justement une illumination, un combat, une cause. Et voilà, c'est ce qui m'excite.
Et le plaisir, il n'est pas forcément artificiel, ce n'est pas forcément un plaisir qui vient des drogues.
Ah oh non, ben bien évidemment, le plaisir, c'est de parler avec vous, Augustin. C'est le plaisir de traverser Paris en scooter, comme je viens de le faire ce matin.
Sobre,
absolument, oui. En plus, sous la pluie et tout, au milieu des grandes avenues, ça roule à toute pompe. Non, le plaisir est partout. Le plaisir est partout et bien évidemment que par moments, on finit par être un peu angoissé pour diverses raisons, mais la quête du plaisir, la quête de donner du plaisir aux autres aussi à travers son travail, ça fait partie de mes fondamentaux.
Quel plaisir, en tout cas, de vous recevoir ce matin. Merci, Kiki Picasso. Je vous préviens, on attend avec grande impatience une prochaine exposition. D'ici là, on peut voir votre travail dans nombre d'archives, sur la toile, également dans ce foisonnement d'images que vous respectez et que vous aimez tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Eilish sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
On est là, on est au rendez-vous, Augustin. À demain.
À demain.